débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. Le président afghan Ashraf Ghani vient d'effectuer une visite de 3 jours aux États-Unis. L'allié américain a accepté de prolonger sa présence militaire dans le pays 1 année supplémentaire. Hier, Ashraf Ghani a remercié devant le Congrès le peuple américain pour son soutien, mais il devra un jour s'en passer et trouver la voie d'une réconciliation et d'un retour à la paix. L'Afghanistan pourra-t-il assurer seul sa sécurité? On va en parler ce soir avec nos deux invités. Je vous les présente tout de suite. Françoise Ostalier, présidente du club France-Afghanistan. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis Jean Damécourt est ancien ambassadeur de France en Afghanistan et auteur d'un livre qui s'appelle « Diplomate en guerre à Kaboul » aux éditions Robert Laffont. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, l'arrivée au pouvoir de ce nouveau duo en Afghanistan, M. Ghani le président, M. Abdullah le chef de l'exécutif, est-ce qu'il offre de nouveaux espoirs, selon vous, d'un règlement négocié des conflits qui perdurent dans le pays? Je commence avec vous, Françoise Ostalier.
Je dirais que déjà, c'était quand même une sacrée gageure de réussir cette entente entre ces deux candidats. Personne n'y croyait. Tout le monde pensait qu'il y aurait la guerre civile, que l'Afghanistan allait exploser. Et finalement, je dirais que le temps afghan n'est pas forcément le temps international. Et contre toute attente, ils se sont entendus. Et pour l'instant, comme vous le voyez, ils sont en train de faire pratiquement le tour de la planète, bras dessus, pour rappeler à la communauté internationale leurs engagements, et notamment aux Américains.
Vous pensez que c'est un duo gagnant, Jean Damécourt?
Je pense que d'abord, ce sont des gens de très grande qualité, tous les deux. Ils se connaissaient très bien, ils avaient l'un et l'autre été ministres sous Karzai, l'un des finances, l'autre des affaires étrangères. Et franchement, c'est une très bonne nouvelle qu'ils soient arrivés. Ça représente une respiration importante par rapport au passé.
Les négociations de paix, quand même, n'arrivent pas véritablement à s'imposer sur l'agenda politique.
Ça, je crois que c'est pas tout à fait exact. Je pense qu'il y a des éléments. D'abord, ce que vous avez annoncé tout à l'heure est un élément très très important. Le fait que le président américain ait accepté d'augmenter les forces américaines qui passent de 5600 à près de 10 000. Et ce, jusque, pas seulement à la fin de 2016, mais presque en sifflet jusqu'à la fin de 2017. Le fait qu'ils occupent deux très grandes bases, Jalalabad et Kandahar, qui sont des bases énormes, qui contrôlent en fait la frontière afghane avec le Pakistan. Et le troisième, qui est aussi très important, qui s'engage pendant cette période à payer 4 milliards de dollars, c'est-à-dire à financer les 352 000 hommes que représentent les forces afghanes, est un élément très 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 important. Mais je voudrais poursuivre sans vouloir monopoliser là. Parce qu'il y a trois éléments extrêmement favorables derrière politique. Il y a ça. Mais il y a aussi le fait que l'armée pakistanaise, pour la première fois, a indiqué qu'elle était peut-être disposée, il faut le vérifier, à participer à, comment dirais-je, d'abord à combattre les talibans et aussi à les contraindre à négocier avec les Afghans. Et ça, c'est un élément extraordinairement important, parce que ça n'a jamais été le cas avant, puisqu'avant, ils considéraient que l'Afghanistan était en fait une arrière-base stratégique où ils voulaient interdire aux Indiens et aux Russes, d'ailleurs, d'être présents pour qu'en cas de conflit avec l'Inde, il n'y ait pas des gens qui les gênent derrière.
Donc, c'est un point important sur lequel on va revenir très longuement dans un instant. Je voulais juste, avec François Ostalier, revenir sur cet aspect, négociation, pour voir si effectivement elles arrivent à s'inscrire dans l'agenda politique du pays. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Les négociations avec les talibans?
Oui.
Mais ça fait très longtemps qu'on en parle, et ça fait très longtemps qu'elles existent, en fait, ces négociations, même si personne ne voulait vraiment en avoir l'assurance. Donc là, et comme l'a dit Jean Damécourt, il y a une composante nouvelle aujourd'hui, c'est la position des Pakistanais. Le massacre de cette école militaire, il y a quelques mois, a été quand même aussi un déclencheur dans l'opinion publique pakistanaise. Et aujourd'hui, la pression américaine, surtout vis-à-vis du gouvernement pakistanais, fait que, il va y avoir quand même aujourd'hui un certain nombre d'avancées dans ce sens-là. Le problème, c'est qu'il peut y avoir maintenant également d'autres perturbations, notamment Daesh, par exemple. Donc, je ne sais pas si vous allez également aborder cette question.
Il va falloir, c'est
mais,
un point important.
Mais là, on voit qu'il y a aussi des éléments nouveaux qui risquent de perturber un jeu peut-être plus classique. De le Taliban, donc un peu peut-être fatigué par tous ces conflits et d'une population qui a soif de paix.
Alors, reprenons les éléments dans l'ordre. On revient au Pakistan, puisque ça semble être un élément fondamental pour tous les deux. En quoi il peut jouer un rôle important, efficace dans ce conflit?
Si vous voulez, d'abord, Mollah Omar et l'ensemble du commandement des talibans se trouvent au Pakistan. Donc déjà, les Pakistanais ont un moyen considérable de pression sur eux. Il suffit que, pour une raison XY, ils décident, jusqu'ici on ne sait pas très bien où ils sont, mais eux savent très bien où ils sont, de faire une pression très forte sur eux. Et deuxièmement, ils ont un intérêt, eux aussi, parce qu'ils sont attaqués violemment par les talibans sur leur propre territoire. Donc ça fait deux raisons au moins pour lesquelles ils devraient quand même bouger, et ils ont indiqué qu'ils allaient bouger. Moi, je rajouterais un autre point qui est très important et très, très, très favorable, c'est la Chine. La Chine est la puissance qui soutient le plus fortement à la fois le Pakistan et maintenant l'Afghanistan. Parce qu'ils ont un très grand projet, qui est le projet de reconstruction de la route de la soie, qui veut dire qu'ils sont en train d'envisager de créer une liaison directe entre la Chine et l'ensemble de l'Asie centrale, qui passerait probablement par l'Afghanistan, à la fois parce que ça représente un marché très important pour eux, et parce qu'il y a des ressources très importantes, notamment en pétrole et en terres rares.
Et j'ajouterais, par rapport à la Chine, vous voyez, on est vraiment d'accord, hein, donc j'abonde totalement ce que vient de dire Jean Damécourt. La Chine a tout intérêt aussi à ce qu'il n'y ait pas trop de désordre en Afghanistan, parce qu'elle a quand même aussi une frontière commune avec l'Afghanistan. Et ce qui se passe à l'ouest de la Chine, avec les Ouïghours notamment, peut aussi inquiéter le pouvoir chinois.
Les forces de police afghanes sont mal équipées, dit-on, mal entraînées. Est-ce qu'elles sont capables d'assurer la sécurité du pays?
Oui, alors ça, je crois que c'est pas tout à fait exact ce qu'on dit. Elles sont pas si mal équipées que ça, elles sont pas si mal entraînées que ça. Ce qu'il y a, en revanche, c'est qu'elles ont, comme d'ailleurs les forces armées, des faiblesses, elles ont des problèmes de système de commandement, d'appui au feu, de logistique, notamment de transport aérien, d'évacuation aussi sanitaire. Toute une série de problèmes qui fait qu'elles sont terriblement vulnérables, et quand elles sont attaquées, elles ont des pertes très importantes, ce qui entraîne à son tour une désertion. Mais en dehors de ça, c'est pas, au contraire, elles ont été plutôt relativement bien formées. Il y a des problèmes, bien sûr. Et je pense qu'elles sont capables, c'est des trois, il faut prendre les forces de police et les forces armées comme un ensemble, parce qu'elles sont toutes équipées pour lutter contre les talibans. Et c'est 352 000 hommes. Et ce qui est important, c'est le soutien américain, encore une fois. Parce que les Américains vont leur apporter un soutien sur ce genre de choses.
Mais ça ne durera pas toujours.
Non, mais en ce moment, c'est important. Si vous voulez, les talibans ne vont pas continuer à une offensive absolument massive sans s'épuiser. Ils sont déjà quand même assez fortement étriés par les 10 ans de guerre qu'ils ont eu avec la coalition internationale. C'est clair qu'ils avaient eu l'intention de faire une pression très forte pour essayer de l'emporter en ce moment. S'il y a une réponse très forte de l'autre côté, et qu'ils ne sont pas capables de s'imposer, ils ne sont pas capables de s'imposer de toute façon, alors je pense qu'on s'orientera vers une négociation et un règlement politique.
François Zostali, vous pensez-vous que les forces de sécurité en Afghanistan seraient capables d'assurer la sécurité du pays seul?
Bien sûr. Par exemple, là, au niveau des chiffres, l'armée afghane, donc de 2005 à 2014, est montée en puissance de 200 000 hommes. En 10 ans, 200 000 hommes. La police, à peu près dans le même temps, 100 000 hommes. Donc, les forces internationales et les Afghans ont formé à peu près 300 000 hommes, formés, équipés de toutes pièces, donc en l'espace de 10 ans. Donc, on ne peut pas espérer non plus que d'un seul coup, le miracle se produise. Bon, moi, je voudrais porter témoignage. J'étais observateur des élections présidentielles, donc en avril de l'an dernier, et ce sont les Afghans qui, pour la première fois, ont entièrement seuls assuré la sécurité du pays. Et il ne s'est pas du tout passé l'apocalypse que les talibans avaient prévu. Bon, il y a eu des incidents, certes, mais les élections se sont très bien passées. Je peux vous dire qu'à Kaboul, la sécurité était parfaitement bien assurée.
Et sur l'ensemble du territoire?
Oui, aussi.
Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean Mécourt?
Si vous voulez, je pense que tout mouvement insurrectionnel violent, comme les talibans, a un pouvoir de nuisance considérable. C'est-à-dire qu'il peut faire, comme il l'a fait hier, je crois, éclater une voiture à côté d'un commissariat, faire 7 morts, une vingtaine de blessés en permanence. Et c'est évidemment terriblement usant pour la population et pour le pouvoir. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont capables de prendre le pouvoir, de contrôler le pays? La réponse est clairement non. Alors ça, c'est absolument impossible. Et il y a une usure. Les gens les haïssent. Il faut voir quand même que les talibans sont extrêmement impopulaires. Donc le problème, c'est d'arriver à ce que ces forces, avec le type de soutien que leur apportent les Américains, et j'insiste parce que c'est important, le renseignement par exemple, ils ont des équipements que les autres n'ont pas, le transport, hélicoptère, avion, l'appui au feu, c'est-à-dire l'appui aérien, mais également le tir d'artillerie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, je vous ai parlé de l'évacuation sanitaire, chose extrêmement importante, les systèmes de commande et de contrôle, toutes ces choses-là.
Les drones.
Les drones, bien sûr, oui, c'est le renseignement, ça fait partie du renseignement, puis aussi de l'appui au feu. Tout ça fait que les forces armées afghanes combattent, mais qu'elles sont aidées puissamment et elles n'ont pas tout ça. Donc c'est très important de continuer à le faire. Alors évidemment, ça ne va pas se faire pendant des années, ne serait-ce que parce qu'Obama a pris l'engagement de s'en aller avant la fin de sa présidence. Puis vous savez, la politique américaine peut évoluer. Et je crois que Françoise, très justement, a évoqué le danger de Daesh. Il y a un danger de reconstitution d'un califat en Afghanistan. Et si c'était le cas, ça serait terrible pour la sécurité du monde, parce que l'Afghanistan est lié terriblement au Pakistan qui est tout proche. Le Pakistan, c'est la 7e armée du monde, c'est 180 millions d'habitants, c'est-à-dire le 2e pays musulman du monde, derrière l'Indonésie. Et c'est quand même un pays absolument considérable qui, s'il tombait dans les mains, ou en partie dans les mains, d'un pouvoir de type Daesh, serait absolument terrifiant. Je vous rappelle que c'est une puissance nucléaire.
Est-ce que les pays occidentaux pourraient être tentés de revenir en Afghanistan en raison de cette menace de Daesh, selon vous, Françoise Ostalier?
Alors, revenir au point de leur engagement dès 2001 et jusqu'en 2005-06, je pense pas. Certainement pas. Mmh. En tout cas, pas les Européens. Mais y rester et y revenir en appui, donc comme l'a dit Jean Damécourt, avec des éléments comme le renseignement, comme donc des formations très particulières et en matériel sophistiqué, je pense que oui. Je pense que oui.
Jean Damécourt.
Je crois aussi, je crois que surtout ce qui est le plus important, ça c'est important, mais ce qui est le plus important, c'est un engagement politique. Vous savez, ces questions se règlent que sur des plans très, très simples, le développement économique, mais également la politique. C'est-à-dire qu'il faut que les puissances autour les puissances qui contribuent à la stabilisation de cette région soient toutes là, autour de la table, pour régler le problème. Alors, on a parlé de la Chine tout à l'heure, fondamentale.
Le Pakistan.
Le Pakistan.
Qui d'autre alors?
Les Iraniens, les Indiens, les Saoudiens, absolument fondamentaux. Il ne faut pas oublier que c'est eux, que c'est les pays du Golfe et l'Arabie Saoudite qui ont financé depuis très longtemps, au travers de leurs fondations religieuses, les mouvements extrémistes du type taliban. Et donc s'ils comprennent que pour une raison XY c'est leur intérêt, parce que ceci se retourne contre eux, de participer à la stabilisation, ils le feront.
Comment les Afghans, je m'adresse vers vous parce que vous êtes très intéressé par la question humanitaire, j'imagine que vous aussi, Jean Damécourt, vous interviendrez sur ce sujet, comment les Afghans vivent-ils cette situation de guerre larvée permanente?
Assez mal. Et ce qu'ils vivent aussi très mal en ce moment, c'est pratiquement l'absence de pouvoir. Puisque ça fait quand même bientôt presque 18 mois, dès avant la campagne électorale présidentielle, que l'Afghanistan vit en état de lévitation. Il n'y a pas de gouvernement encore constitué. Là il y a ce bicamérisme au niveau du pouvoir, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de prise de décision concrète. Les Afghans sont fatigués.
La vie quotidienne est très affectée par tous ces événements.
Énormément affectée. Énormément affectée. Il y a pratiquement aucune prise de décision réelle qui peut se faire, notamment pas sur le long terme. Donc il y a eu des belles promesses électorales. Les deux candidats étaient pratiquement d'accord sur les grandes lignes par rapport à ce qu'il faut faire en Afghanistan. Mais aujourd'hui, rien de concret ne peut se réaliser. Et les Afghans sont très, très fatigués.
Quels échos vous avez-vous, Jean Damécourt?
Je crois qu'il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, dont on parle peu, c'est avec le retrait des forces internationales. Il y avait quand même 150 000 hommes à un moment, et la présence de l'ensemble de la communauté internationale, beaucoup d'expatriés, beaucoup de fonds, des sommes énormes ont été dépensées en Afghanistan. Tout d'un coup, le pays se trouve très appauvri, parce qu'il n'a plus ses ressources. Bon, et ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est très, très, très importante, c'est du coup l'importance considérable que prend l'économie de la drogue. elle a toujours eu une importance très grande. L'estimation, c'est de l'ordre de 3 à 4 milliards de dollars du chiffre d'affaires de l'économie de la drogue, c'est-à-dire de l'opium, c'est-à-dire de tout ce qui est dérivé de l'opium. La drogue, ça veut dire que les talibans, notamment, protègent les trafiquants, protègent la culture, et qu'il y a une interpénétration très étroite entre cet argent et la corruption qui appauvrit le pays, mais qui n'est pas une source de richesse, puisque une grande partie de tout ça, ça va à l'extérieur.
Et on évoque, je l'ai lu, la présence des talibans dans la société civile afghane, notamment dans la police, on parlait sécurité. Quelle est la mesure de cette infiltration? Vous avez des informations à ce propos? Je donne mes cours.
Sur ce sujet, si vous voulez. On peut pas empêcher un mouvement insurrectionnel d'infiltrer un peu tout pour conduire des opérations terroristes. Enfin, on peut pas l'empêcher. En tout cas, c'est difficile. Mais l'idée qu'on trouvait dans certains romans policiers à succès, que les talibans soient présents partout, y compris dans les allées du pouvoir, qu'ils aient accès à tout, qu'ils finalement contrôlent en sous-main le pays. Alors ça, c'est absolument faux et ça n'a absolument aucun rapport avec la réalité. Le pays est fragile, il est fragilisé, c'est clair. Vous savez, dans un pays dans lequel un policier gagne quoi, 70 dollars par mois, ou non, peut-être un peu plus, $120 par mois, si on vient lui offrir $50 ou $100 pour donner un uniforme et faciliter l'entrée de quelqu'un, et qu'en plus il a une petite sympathie islamiste pour ce mouvement, bah, il le fera, sans hésitation.
Est-ce que vous pensez, je reviens au départ de notre conversation et à ces négociations de paix qui ont des difficultés à s'instaurer de manière un peu durable, on va dire, est-ce que vous pensez, comme certains, que la présence militaire de l'OTAN, des États-Unis, est un facteur de guerre? Est-ce que leur départ pourrait faciliter les négociations de paix? Françoise Ostalier.
Évidemment. Et beaucoup d'Afghans, dès les années 2006 à peu près, c'est là qu'on a commencé à avoir le poids de la présence des forces internationales, ont commencé à dire qu'ils étaient envahis et que c'était des forces d'occupation. Et ça a été quand même leitmotiv justement des talibans de dire que tant qu'il resterait des militaires étrangers sur le sol afghan, eh bien, il n'y aurait aucune négociation possible. Je crois qu'aujourd'hui, et on l'a vu dans pas mal de situations, les Afghans, le peuple afghan soutient son armée, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Il y a quelques années, l'armée afghane était considérée comme une armée de mercenaires au service de ces forces étrangères. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est leur armée, ce sont leurs soldats, ce sont des leurs, et ils les soutiennent, et ils aident aussi l'armée quand il y a des menaces d'attentats, ou des IED sur la route, etc. Eh bien, la population prévient les policiers ou les militaires en disant attention, etc., etc. Donc je dis, on a un revirement par rapport à ça. Donc oui, il y a un espoir.
Jusqu'ici, j'étais toujours d'accord avec Françoise Ossalier, là, légèrement en désaccord. Si vous voulez, depuis toujours, tous les sondages montrent que l'armée et la police, paradoxalement, parce qu'elles sont pleines de défauts, y compris par exemple la corruption dans la police qui existe, l'usage de la drogue, enfin des choses qui ne sont pas très recommandables, la police et l'armée ont toujours été très bien considérés par la population, parce que l'un des problèmes, l'une des revendications fondamentales des Afghans, c'est l'ordre. Et la chose qui leur manque, évidemment, c'est ça. Ils ont bien compris qu'ils avaient besoin de cette armée, de cette police pour les aider. Vis-à-vis des forces étrangères, il y avait une attitude tout à fait ambiguë. Certes, les talibans expliquent toujours que c'était eux qui étaient à l'origine de la guerre, mais c'est absolument faux, c'est de la pure propagande. La réalité était que la présence massive de forces étrangères est à deux versos. D'un côté, elle contribuait à la stabilisation, de l'autre, elle exaspérait les populations, parce qu'il y avait des maladresses qui étaient commises, et donc il y avait une certaine impopularité de ces forces.
Allez, on va en rester là. En tout cas, le nouveau président est diplomatiquement très actif. On va voir s'il peut faire mieux que son prédécesseur. Merci à tous les deux. Françoise Ostalier, présidente du club France-Afghanistan, et Jean Damécourt, ancien ambassadeur de France en Afghanistan, auteur de Diplomate en guerre à Kaboul, aux éditions Robert Laffont. Merci également à Florence Ponce, Alexandre Serre et Valentin Vaner. Demain, Anne Souhaitemont et ses invités s'interrogent sur la position des intellectuels en France face à la montée du Front National. Restez à l'écoute de Radio France Internationale. Un nouveau journal dans quelques secondes.